7h-9h, les matins du samedi. Nicolas Herbeau.
À première vue, si l'on lit la définition du dictionnaire, l'empathie est, je cite, la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. On pourrait donc s'arrêter là, en considérant que c'est une qualité, une grande qualité, que chacun d'entre nous devrait cultiver pour vivre tous ensemble et affronter les épreuves. Il suffirait ainsi de mettre en place des cours d'empathie à l'école pour lutter contre le harcèlement scolaire, idée de Gabriel Attal, sur laquelle on va revenir. Sauf que l'empathie est en réalité un sentiment biaisé qui n'est pas tout à fait fiable, et c'est tout l'objet de votre dernier essai, Sama Karaki. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la transition de la semaine. Vous êtes docteur en neurosciences, vous travaillez justement sur le dialogue entre les sciences naturelles et les sciences sociales, et vous venez de publier aux éditions Lattès « L'empathie et politique, comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments ». Je voudrais bien qu'on revienne d'abord sur la définition de l'empathie, Sama Karaki. Quelle est-elle selon vous ?
Alors, selon un peu aussi la discipline de laquelle je viens, les neurosciences, c'est la capacité à communiquer ou partager les émotions et l'expérience de l'autre. Elle peut être rudimentaire, c'est-à-dire une contagion émotionnelle très spontanée, comme elle peut être plus délibérée dans laquelle je vais me projeter dans la perspective de l'autre.
Ça veut dire très concrètement, je vois quelqu'un pleurer, donc je ressens aussi cette tristesse, c'est ça ?
Alors je peux la ressentir, comme je peux aussi essayer de comprendre de quoi il s'agit et me dire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui souffre et ça veut dire que c'est une tristesse. Donc c'est aussi une forme de projection abstraite qui me permet de comprendre ce que vit l'autre.
En quoi c'est différent de la compassion ou de la sympathie ? Est-ce qu'il y a des liens entre tous ces termes-là ?
Alors, il y a des liens, il y a surtout des conflits au niveau de la terminologie. La sympathie, on peut plus la lier au fait d'être en accord avec ce que vit l'autre, d'où le terme sympathisant. La compassion, ça reste au niveau du partage émotionnel, donc c'est partager la passion de l'autre. Et en fait, on va trouver dans certaines disciplines une inversion de ces définitions. C'est pour ça que je réserve un chapitre pour parler un peu de ces discordes, et je passe tout de suite à ce qui m'intéresse. Et est-ce que toutes ces différentes façons d'exprimer un intérêt et une attention envers l'autre peut être jugée comme une bonne boussole morale?
Alors justement, puisque vous parlez de cette boussole morale, c'est aussi comme ça qu'on peut voir l'empathie à première vue. Et en réalité, vous nous expliquez dans cet essai que voilà, c'est un sentiment biaisé, que l'empathie est trompeuse, qu'on ne peut pas s'y fier. Pour quelle raison ?
Alors d'abord, on ne peut pas s'y fier parce que on la réserve aux personnes qui nous sont proches, et on marginalise en quelque sorte de sa sphère les personnes que nous considérons étrangères, lointaines, qui ne partagent pas un lieu géographique, une culture, donc ce qu'on appelle en journalisme le biais kilomètre émotion. Plus les personnes souffrent à distance de nous et moins on a d'intérêt pour leur souffrance. Mais on peut dire que c'est tout à fait biologique, hein, c'est tout à fait normal de réserver notre énergie à nos proches. Mais ce que je cherche à montrer, c'est que ce qui fait de l'autre, ce qui donne à voir l'autre comme un semblable ou qui le marginalise, est cadré par quelque chose qui est extérieur à soi, par ce qui nous a été donné comme information sur cet autre. Et donc, en fait, on est biaisé par les informations qui nous proviennent de la souffrance de l'autre.
Vous démontriez dans votre précédent livre sur le talent, enfin vous intéressiez au talent, et vous dites ce sont d'ailleurs deux notions qui sont considérées comme universelles, naturelles, et pour autant, et c'est là tout l'intérêt de ces deux livres, il y a une construction sociale, il y a une construction politique, et du coup, ces notions, et notamment l'empathie, sont des notions qui sont instrumentalisées dans le discours politique. De quelle façon ?
De la même façon que le mérite, je considère que l'empathie est une conséquence de quelque chose qui est social et politique. Ce n'est pas une cause. Ça veut dire que si je suis amenée à voir en l'autre un ennemi, si je suis amenée à voir en l'autre un barbare, un terroriste, une personne hostile, un groupe hostile, inférieur à mon groupe, en conséquence, je ne vais pas réserver de l'attention et donc de l'empathie envers ce groupe. Et donc son effacement, sa souffrance, elle me devient tolérable. J'analyse cela dans le contexte de la Shoah, mais aussi dans d'autres contextes de conflits dans lesquels on arrive, comme le conflit en Palestine ou en quelques mots sur le Liban aussi, mais l'ironie fait que ces paroles sont actuelle. Et je montre en fait qu'il y a un processus d'essentialisation d'un groupe à un trait qui rend quasiment légitime ses souffrances et quasiment utile, et un désintérêt total à la complexité de ces êtres, hein, parce qu'elles sont renvoyées à un seul groupe, contrairement à l'empathie que je peux porter à une personne qui m'est proche, dans laquelle je parle d'elle, je vois son visage, je parle de sa famille, et donc je la rends aussi endeuillable, dans le sens où je lui réserve aussi une tristesse à sa disparition.
Alors, puisque vous êtes docteur en neurosciences, peut-être nous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on simplifie autant l'image qu'on a de quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, ce que vous venez d'expliquer, et pourquoi est-ce que du coup on met en place cette hiérarchisation en quelque sorte ?
Alors, la simplification est un besoin énergétique, on peut dire, pour pouvoir simplifier le monde et pouvoir circuler dans le monde. Ça veut dire catégoriser. Là, vous entendez ma voix, vous catégorisez que cette voix, elle provient peut-être d'une femme. Et donc, c'est quelque chose qui se passe très rapidement, même si vous pouvez vous tromper. Cette catégorisation, elle est tellement implicite et inconsciente et spontanée qu'on ne peut pas ne pas la faire. C'est ce que je montre. Je montre que cette catégorisation peut être très abstraite.
C'est un réflexe, en quelque sorte.
C'est un réflexe, mais elle peut être complètement artificielle. Le simple fait qu'on porte des fois les mêmes vêtements avec quelqu'un d'étranger peut nous rendre dans une illusion de proximité. On va avoir plus d'empathie pour cette personne. Et donc, biologiquement, on va en fait créer des groupes très rapidement, même s'ils ne sont pas basés sur aucun vrai partage d'expérience ou culturel. Et donc voilà, c'est cette première raison énergétique. Et puis aussi, on peut penser au niveau de la psychologie évolutive, qu'il est aussi peut-être pour la survie de l'espèce intéressant de réserver une énergie pour mon groupe, parce que je n'en ai pas beaucoup, comme ça je vais soigner mon groupe va me soigner et ça va se passer de la même façon pour les autres, et ce qui nous a permis de tisser des liens de proximité et de servir une forme de survie du groupe social auquel on appartient.
Alors vous disiez que on avait peut-être plus d'empathie pour des victimes, notamment de conflits qui sont plus proches de nous. On a souvent comparé le Proche-Orient, le Moyen-Orient avec ce qui se passe en Ukraine, plus proche de l'Europe. Mais ce que vous dites aussi, c'est que c'est une empathie qui se construit, et on en revient aussi à peut-être à l'idée du journalisme, c'est-à-dire que c'est aussi, si on est plus proche des Ukrainiens, c'est pas parce que particulièrement on les connaît plus, mais parce qu'aussi on raconte mieux leur histoire, mieux leur parcours, ce ne sont pas seulement des chiffres abstraits en quelque sorte.
Oui, et surtout qu'on ne peut pas s'arrêter à l'argument de la proximité, parce que ce que je montre, qu'il y a aussi un argument de hiérarchie verticale, de valeur de vie, qui n'a rien à voir avec le fait d'être proche. Ça veut dire peut-être quelque chose qui arrive à des minorités racisées en France va aussi toucher moins que ce qui arrive à des réfugiés blancs qui arrivent de notre partie. Et je montre qu'en fait, il y a une sédimentation des discriminations raciales. On peut aussi parler, par exemple, du manque d'empathie que beaucoup d'hommes éprouvent envers les femmes, alors qu'en fait, on partage la même culture, que nous vivons en contact quotidien les uns avec les autres, et nous allons en fait trouver que, parce qu'il y a une hiérarchie dans laquelle on considère qu'il y a des groupes qui sont plus sensibles que d'autres, plus complexes que d'autres, et donc ce qui justifie que je vais leur attribuer plus de raisons et plus de justement d'attention, et donc plus d'empathie éprouvée à ce qu'ils vivent. Donc la proximité ne suffit pas pour justifier qu'on s'intéresse plus au sort de quelques-uns, de quelques-unes. Il faut rajouter aussi le fait que on considère que les autres sont inférieurs à soi.
On a 10 secondes pour répondre à cette dernière question, Sama Karaki. Est-ce qu'on peut transmettre l'empathie? Est-ce qu'on peut l'apprendre comme ces cours d'empathie voulus notamment par Gabriel Attal contre le harcèlement scolaire?
Non, parce que l'empathie est une conséquence. On peut apprendre l'histoire des discriminations, et si on voit les autres comme des égaux à soi, l'empathie, elle sera une conséquence à ça.
Sama Karaki, docteur en neurosciences, votre dernier essai aux éditions La Thèse s'intitule « L'empathie est politique, comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments ». Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de La Transition sur France Culture.